Chapitre 13. Martel. Dame Patience affirma son excentricité dès son plus jeune âge. Ses nourrices la décrivaient comme farouchement indépendante, mais sans assez de bon sens pour se débrouiller seule. L'une d'elles remarqua, elle se promenait souvent toute la journée les lacets défaits, parce qu'elle ne savait pas les nouer elle-même, mais ne supportait pas non plus qu'on le fasse à sa place. Avant l'âge de 10 ans, elle avait décidé de se dispenser de l'éducation traditionnelle qui seyait aux enfants de son rang, et s'absorba dans des arts d'une discutable utilité pour son avenir. Poterie, tatouage, concoction de parfums, culture et multiplication des plantes, surtout exotiques. Elle n'avait nul scrupule à s'absenter de longues heures loin de toute surveillance. Elle préférait les bois et les vergers, aux cours et aux jardins de sa mère. On pourrait croire que tout cela produirait une enfant robuste à l'esprit pratique, mais rien ne saurait être plus éloigné de la réalité. Elle était constamment victime d'éruptions, des raflures et de piqûres, s'égarait fréquemment et n'acquit jamais le moindre sens de la prudence vis-à-vis des hommes comme des animaux. Elle fut en grande partie autodidacte. Maîtrisant très tôt la lecture et l'écriture, elle dévora dès lors tous les manuscrits, livres et tablettes qui lui tombaient sous la main avec un appétit insatiable et dépourvu de discrimination. Ses précepteurs s'exaspéraient de sa distraction et de ses fréquentes disparitions, qui ne semblaient aucunement affecter sa capacité à apprendre quasiment n'importe quoi, vite et bien. Cependant, mettre en pratique ses connaissances ne l'intéressait pas du tout. La tête pleine de fantaisies et de chimères, elle substituait la poésie et la musique à la logique et aux bonnes manières, et ne manifestait aucun intérêt pour les mondanités ni pour les coquetteries. Et pourtant, elle épousa un prince, courtisée par lui avec un enthousiasme et une obstination qui causèrent un vrai scandale. Ce n'était que le premier qu'il devait connaître. « Tiens-toi droit !» je me raidis. « Pas comme ça ! On dirait une dinde qui attend la hache, le cou étiré, plus détendu. Non, les épaules en arrière. Ne te voûte pas. Tu te tiens toujours avec les pieds en canard, comme ça ? Madame, ce n'est qu'un adolescent. Ils sont tous pareils, tout en os et en angle. Laisse-le entrer, qu'il trouve son aise. » « Très bien. Entre alors. » D'un hochement de tête, j'exprimai ma gratitude à la servante et un sourire creusa des fossettes dans son visage lunaire. Elle m'indiqua un banc recouvert d'une telle profusion de coussins et de châles qu'il y restait à peine la place de s'asseoir. Je m'y installai du bout des fesses et fis des yeux le tour de la chambre de Dame Patience. C'était encore pire que chez Imbre. J'y aurais vu le désordre de plusieurs années si je n'avais su que son occupante n'était arrivée que depuis peu. Même un inventaire complet de la pièce n'aurait pu la décrire, car c'était la juxtaposition des objets qui la rendait remarquable. Un éventail de plumes, un gant d'escrime et un bouquet de roseaux dépassaient d'une botte usagée. Une petite chienne terrier noire avec 2 chiots rondelets dormait dans une panière garnie d'une capuche de fourrure et de bas de laine. Une famille de morses en ivoire taillé trônait sur une tablette traitant du ferrage des chevaux. Mais l'élément dominant, c'était les plantes. De grosses masses de végétation débordaient de pots en argile, des boutures, des fleurs et des feuilles coupées emplissaient des tasses, des coupes et des seaux. Des plantes grimpantes jaillissaient de chopes sans anses et de vers ébréchés. Des tiges dénudées, résultat d'essais malheureux, pointaient de pots en terre. Les plantes se massaient partout où elles pouvaient capter le soleil du matin ou du soir. On avait l'impression d'un jardin qui se serait déversé par la fenêtre et qui aurait poussé au milieu de la pagaille générale. Il doit avoir faim, non, Brodette? Il paraît que c'est fréquent chez les adolescents. Je crois qu'il y a du fromage et des biscuits sur l'étagère près de mon lit. Veux-tu lui en rapporter, mon ami? Dame Patience se tenait à une longueur de bras de moi et s'adressait à sa chambrière par-dessus mon épaule. Merci, mais je n'ai pas faim. « Vraiment, » bredouillai-je avant que Brodette pût se lever. « Je suis venu parce qu'on m'a dit de me mettre à votre disposition tous les matins pour aussi longtemps que vous le désireriez. » C'était là une reformulation diplomatique des paroles du roi subtil. « Va chez elle tous les matins et plie-toi à tous ses ordres, qu'elle me fiche enfin la paix. Et continue jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée de toi autant que je le suis d'elle. » Sa rudesse m'avait stupéfié. Il avait l'air aux abois, et je ne l'avais jamais vu ainsi. Vérité était entrée au moment où je me retirais discrètement, et lui aussi paraissait tourmenté. À leurs gestes et à leur façon de parler, on aurait dit qu'ils avaient trop bu la veille, l'un comme l'autre, alors que le repas du soir avait justement brillé par une nette absence de gaieté et une tempérance presque absolue. Vérité m'avait ébouriffé les cheveux au passage. « Il ressemble de plus en plus à son père, celui-là, » avait-il observé. Et, derrière lui, Royal s'était renfrogné. Il m'avait jeté un regard furieux, avant de fermer bruyamment la porte des appartements du roi. Je me retrouvai donc chez madame, qui tournait autour de moi à distance respectueuse, et parlait sans s'adresser à moi, comme si j'étais un animal susceptible à tout instant de l'attaquer ou de souiller ses tapis. Visiblement, la scène réjouissait beaucoup Brodette. « Oui, je le sais, car, vois-tu, c'est moi qui ai demandé au roi qu'on t'envoie, » m'expliqua Dame Patience d'un ton appliqué. « Oui, madame. » Je m'agitais sur mon bout de banc en essayant de prendre l'air intelligent et bien élevé. Étant donné nos rencontres précédentes, je ne pouvais guère lui reprocher de me traiter comme un dadais. Le silence retomba. Je promenais mon regard sur le fouillis de la pièce et Dame Patience avait les yeux tournés vers une fenêtre. Brodette souriait par en dessous, en feignant de faire des frivolités de dentelle. « Ah, tiens !» Tel le faucon qui fond sur sa proie, Dame Patience se baissa soudain et saisit un des chiots, le noir, par la peau du cou. Il poussa un glapissement de surprise et sa mère leva un regard désapprobateur vers Dame Patience, qui me fourra l'animal dans les bras. « Celui-ci est pour toi. Il est à toi maintenant. Tous les garçons doivent avoir une bête à eux. » J'attrapai le chiot qui se tortillait et parvins à le soutenir avant qu'elle ne le lâche. « À moins que tu ne préfères un oiseau. J'ai une cage de pinson dans ma chambre à coucher. Tu peux en prendre un si tu veux. »« Non. Un petit chien, c'est très bien. C'est merveilleux. » Cette dernière phrase s'adressait à l'intéressé. Ma réaction instinctive assez suraiguë avait été de tendre mon esprit pour l'apaiser. Sa mère avait senti mon contact et l'avait approuvé. Elle se réinstalla dans son panier aux côtés du chiot blanc avec une joyeuse insouciance. Celui que j'avais dans les bras leva le museau et me regarda droit dans les yeux. Selon mon expérience, c'était là une attitude inhabituelle. La plupart des chiens évitent de croiser trop longtemps les regards. Étonnante aussi, la vivacité d'esprit dont il faisait preuve. Je savais, par une pratique subreptice dans les écuries, qu'en général, les chiots de son âge n'ont qu'une conscience très floue d'eux-mêmes, et que leur mère, le lait et leurs besoins immédiats en constituent les seuls points fixes. Mais ce petit gaillard possédait déjà une identité solidement établie et un profond intérêt pour tout ce qui l'entourait. Brodette, qui lui donnait des petits bouts de viande, lui plaisait, mais il se méfiait de patience, non parce qu'elle se montrait cruelle, mais parce qu'elle trébuchait sans cesse sur lui et qu'elle le remettait dans le panier chaque fois que, laborieusement, il parvenait à en sortir. Il me trouvait un fumet tout à fait passionnant, et l'odeur des chevaux, des oiseaux et des autres chiens était comme des couleurs dans son esprit, des images de choses encore sans forme ni réalité pour lui, mais qui le fascinaient pourtant. Je lui fournis la représentation correspondant à chaque odeur, et il se mit à escalader ma poitrine avec frénésie, puis à me renifler et à me lécher, tout excité.
« Emmène-moi, montre-moi, emmène-moi. »«
M'écoute. » Je tressaillis. Un instant, j'attendis la taloche de Burick, puis je repris conscience de ce qui m'entourait, et du petit bout de femme qui se tenait devant moi, les mains sur les hanches.
« J'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait normal. » remarqua-t-elle à l'adresse de Brodette. « As-tu vu cette façon de rester sans bouger à regarder le chiot? J'ai cru qu'il allait nous faire une attaque. »
Brodette sourit avec douceur, penchée sur son ouvrage. « Tout à fait comme vous, madame, lorsque vous commencez à bricoler avec des feuilles et des boutures, et que vous finissez par contempler la terre, les bras ballants. »«
Allons, » fit Patience, manifestement mécontente. « Il n'y a pas de commune mesure entre l'expression méditative d'un adulte et l'air bovin d'un adolescent. »
Plus tard, promis Joshio.
Pardonnez-moi, dis-je en essayant de prendre une mine repentante. Je me suis laissé distraire par le petit chien. il s'était roulé en boule au creux de mon bras et mâchonnait négligemment l'ourlet de mon pourpoint. J'aurais du mal à expliquer ce que je ressentais. Il fallait que j'accorde mon attention à Dame Patience, mais ce petit être mussé contre moi irradiait le bonheur et la satisfaction. Il est vertigineux d'être subitement propulsé au centre du monde de quelqu'un, même si ce quelqu'un est un chiot de 8 semaines. Je compris alors la profondeur de ma solitude, une solitude qui ne datait pas d'hier. « Merci, » dis-je, surpris moi-même de la reconnaissance qui transparaissait dans ma voix. « Merci beaucoup. »«
Ce n'est qu'un chien, »
répondit Dame Patience, et à mon grand étonnement, elle eut l'air presque honteuse. Elle se détourna et regarda par la fenêtre. Le chiot se lécha le museau et ferma les yeux.
« Chaud. Sommeil. »«
Parle-moi de toi, » demanda soudain mon hôtesse. Je fus pris au dépourvu. « Que désirez-vous savoir, madame ?» Elle eut un petit geste agacé.
« Eh bien, à quoi occupes-tu tes journées? Qu'apprends-tu ? »
Je m'efforçais de répondre, mais je la sentais impatiente. Elle pinça les lèvres à chaque mention du nom de Burick, et ma formation au maniement des armes la laissa de marbre. Je ne pouvais naturellement rien dire d'imbre. D'un hochement de tête, elle approuva raidement mon apprentissage des langues, de l'écriture et du calcul.
« Bien !»
me coupait-elle brusquement. « Au moins, tu n'es pas totalement ignare. Si tu sais lire, tu peux apprendre n'importe quoi, à condition que tu le veuilles. As-tu envie d'apprendre ?»«
Je crois. »
Tiède réponse. Mais Dame Patience commençait à m'énerver. Même le chiot qu'elle m'avait donné ne suffisait pas à compenser son dénigrement systématique de mes connaissances. « Dans ce cas, tu dois pouvoir apprendre, car moi, j'ai l'intention de t'instruire, même si tu n'en as pas envie pour l'instant. » Son expression devint austère. Ce fut si soudain que j'en restais interloqué. « Et comment t'appelle-t-on, mon garçon ?» Toujours cette question. « Mon garçon, c'est très bien, » marmonnai-je. Le chiot qui dormait dans mes bras s'agita en poussant un gémissement. Pour lui, je me contraignis au calme. J'eus la satisfaction de voir une expression de détresse passer fugitivement sur les traits de Patience. « Je vais t'appeler, disons, Thomas. Tom, pour tous les jours. Cela te convient-il ? » « Il faut bien, » répondis-je effrontément. Burick se donnait plus de mal qu'elle pour nommer un chien. Pas de noireau ni de médor dans les écuries. Burick baptisait chaque animal comme si c'était un roi, avec un nom qui le décrivait ou qui évoquait un caractère désirable. Même celui de Suie masquait un feu tranquille que j'avais appris à respecter. Mais cette femme me donnait le nom de Tom sans même avoir pris le temps de respirer. Je baissai les yeux afin de les dissimuler à sa vue. « Parfait, » dit-elle avec une pointe de sécheresse. « Reviens demain à la même heure, j'aurai des choses à te faire faire. Je te préviens, j'attendrai de toi que tu travailles de bon cœur. Bonne journée, Tom. »
« Bonne journée, madame. »
Je fis demi-tour et m'en allai. Brodette me suivit des yeux, puis son regard revint rapidement sur sa maîtresse. Je sentis sa déception, mais sans pouvoir en déceler la raison. Il était encore tôt. Cette première entrevue avait pris moins d'une heure. Comme on ne m'attendait nulle part, j'avais tout mon temps libre et je pris la direction des cuisines afin de soutirer à Mijotte quelques restes pour mon chiot. J'aurais pu l'emmener aux écuries, mais Burick aurait alors découvert son existence, et j'étais sans illusion sur la suite. Mon chien serait certes le bienvenu et demeurerait à moi, nominalement, mais Burick veillerait à trancher ce nouveau lien, et cela, j'avais la ferme intention de l'éviter. Je dressai mes plans. Je lui confectionnai une couche avec une bannière empruntée aux lavandières et une vieille chemise jetée par-dessus un lit de paille. Les saletés qu'il pourrait faire seraient pour l'instant réduites et, plus tard, mon lien avec lui me permettrait de le dresser sans mal. Pour le présent, il devrait rester seul une partie de la journée, mais en grandissant, il pourrait m'accompagner. Naturellement, Burick finirait par découvrir son existence, mais j'écartai résolument cette pensée. Je m'en occuperai en son temps. Il lui fallait un nom. Je l'étudiai donc attentivement. Il n'était pas de ces terriers à poils bouclés qui passent leur temps à japper. Il aurait un pelage court et lisse, un cou épais et une gueule comme un seau à charbon. mais adulte, il m'arriverait en dessous du genou. Par conséquent, il ne lui fallait pas un nom trop pesant. Je ne voulais pas en faire un chien de combat, donc pas question d'éventreur ni de chargeur. Il serait tenace et vif. Étau, peut-être. Ou vigie.
Ou enclume, ou forge.
Je levai les yeux. Le fou sortit d'une alcôve et m'emboîta le pas dans le couloir. « Pourquoi ? » demandai-je. Il y avait belle lurette que je ne m'interrogeais plus sur la faculté du fou à savoir ce que je pensais.
« Parce que ton cœur sera martelé contre lui et que ta force sera trempée dans son feu. »
« Ça fait un peu mélodramatique, » objectai-je. « Par ailleurs, Forge est un nom malvenu ces temps-ci. Je n'ai pas envie de l'imposer à mon chien. Tiens, encore l'autre jour en ville, j'ai entendu un ivrogne gueuler à un malandrin « Que ta femme se fasse forgiser !» Tout le monde s'est retourné sur lui dans la rue. Le fou haussa les épaules.
« Ça ne m'étonne pas !»
Il me suivit dans ma chambre.
« Marteau, alors, ou martel ?»« Tu me le laisses voir ?»
À contre-cœur, je lui passai le chiot qui se réveilla et se mit à se tortiller entre les mains du fou.
« Pas d'odeur ! Pas d'odeur !»
À ma grande surprise, je ne pus qu'être d'accord avec le chiot. Même par le biais de son petit museau noir, je ne détectais aucune odeur émanant du fou.
« Attention, ne le lâche pas !»« Je suis un fou, pas un idiot !»
Mais il s'assit néanmoins sur mon lit et posa l'animal près de lui. Martel se mit aussitôt à renifler et gratter mes draps. Je m'installai de l'autre côté afin de veiller à ce qu'il ne s'approche pas trop du bord.
« Alors ?»
me demanda le fou d'un air dégagé.
« Tu vas la laisser t'acheter avec des cadeaux ?»«
Pourquoi pas ?» Je me voulais dédaigneux.
« Ce serait une erreur, pour l'un comme pour l'autre. »
Il tortillait le petit bout de queue de Martel, qui se retourna avec un grondement de bébé chien.
« Elle va essayer de te donner des choses, et tu seras obligé de les accepter. » parce qu'il n'y aura pas moyen de refuser poliment. Mais tu devras décider si ces présents bâtiront un pont entre vous ou un mur.
« Est-ce que tu connais Imbre ? » demandai-je brusquement, car le fou et lui s'exprimaient de façon si semblable qu'il me fallait savoir. Je n'avais jamais parlé d'Imbre à personne, sauf à Subtil, et je n'avais jamais entendu mentionner son nom dans la forteresse.
« Imbre ! Ou soleil, je sais qu'en tenir ma langue. Tu ferais bien d'apprendre à en faire autant. »
Il se leva sans crier gare et se dirigea vers la porte. Il s'y arrêta un instant.
Elle ne t'a détesté que les premiers mois. Et ce n'était pas vraiment de la haine contre toi. C'était une jalousie aveugle vis-à-vis de ta mère, capable de donner un enfant à chevalerie, alors qu'elle-même n'y parvenait pas. Après ça, son cœur s'est radouci. Elle voulait te faire venir auprès d'elle, t'élever comme son propre fils. D'aucuns diraient qu'elle désirait s'approprier tout ce qui touchait à chevalerie. Ce n'est pas mon avis.
J'étais incapable de détourner mon regard du fou.
« Tu as l'air d'un poisson, la bouche ouverte comme ça !»
observa-t-il. Puis il poursuivit.
« Naturellement, ton père a refusé en arguant que ce pourrait être perçu comme une reconnaissance formelle de son bâtard. Mais ce n'était pas la vraie raison, je pense. Ça aurait été dangereux pour toi. Voilà ce que je crois. »
Il fit un geste bizarre de la main, et un bâton de viande séchée apparut entre ses doigts. Je savais qu'il le tenait dissimulé dans sa manche, mais du diable si j'avais vu comment il avait exécuté son tour. Il jeta la viande sur mon lit, et le chiot bondit avidement dessus.
« Tu peux lui faire mal, si tu en as envie, » continua-t-il. « Elle se sent terriblement coupable de la solitude dans laquelle tu as grandi. » Et ta ressemblance avec Chevalerie est telle que, quoi que tu dises, ce sera comme si c'était lui qui parlait. Elle est comme un diamant qui aurait un défaut. Un
coup bien placé de ta part et elle éclatera en mille morceaux. Elle est moitié folle, tu sais. Si elle n'avait pas consenti à l'abdication de chevalerie, on n'aurait jamais pu le tuer. En tout cas, pas avec tant de désinvolture quant aux conséquences. Et elle le sait.
Qui est ce « on » demandai-je d'une voix tendue.
« Qui sont ces « on » »
corrigea-t-il avant de s'éclipser. Le temps que j'atteigne la porte, il avait disparu. Je tendis mon esprit à sa recherche, sans résultat, à croire qu'il avait été forgisé. À cette idée, un frisson glacé me parcourut, et je retournai auprès de Martel. Il mâchonnait la viande dont il répandait ses petits bouts gluants sur le lit. Je l'observais. « Le fou est parti, » lui dis-je enfin. Il agita vaguement la queue pour accuser réception du message, sans s'arrêter de mordiller son jouet. Il était à moi. On me l'avait donné. Pas un chien d'écurie confié à mes soins, mais un chien à moi, hors d'atteinte de l'autorité de Burick. À part mes vêtements et le bracelet de cuivre, cadeau d'Imbre, je ne possédais pas grand-chose. Mais ce chiot compensait tout ce qui avait jamais pu me manquer. Le poil luisant, il était en bonne santé. Pour l'instant, son pelage était lisse, mais il se hérisserait avec le temps. Je le portais devant la fenêtre et distinguais alors de légères variations de couleur dans sa robe. Il serait tacheté sombre, donc. Je lui découvris une marque blanche sur le menton et une autre sur la patte arrière gauche. Il referma ses petites mâchoires sur la manche de ma chemise et se mit à la tirailler violemment en poussant de féroces grondements de bébé chien. Je me bagarrai avec lui sur le lit jusqu'à ce qu'il sombre dans un profond sommeil, les membres flasques. Après quoi, je le déposai sur son coussin de paille et me forçai à m'acquitter de mes leçons et de mes corvées de l'après-midi. Ma première semaine avec patience fut pénible, autant pour Martel que pour moi. J'appris à maintenir un filet d'attention en contact permanent avec lui, afin qu'il ne se sente jamais seul et ne se mette pas à hurler quand je le quittais. Mais cela demandait de la pratique, si bien que j'étais souvent distrait. Au début, Burick fronça les sourcils, mais je le persuadais que cela provenait de mes leçons avec patience. « Je n'ai aucune idée de ce qu'elle attend de moi, » lui dis-je le troisième jour. Hier, c'était la musique. En l'espace de 2 heures, elle a tenté de m'enseigner à jouer de la harpe, du biniou de mer et enfin de la flûte. Et chaque fois que j'étais sur le point de comprendre comment tirer une ou 2 notes de l'un, elle me l'arrachait des mains et m'ordonnait d'en essayer un autre. Elle a conclu la séance en déclarant que je n'avais aucun don musical. Ce matin, c'était la poésie. Elle a entrepris de m'apprendre le poème sur la reine panacée et son jardin. Déjà qu'il y en a toute une tartine sur les simples qu'elle cultivait et leur usage, mais en plus, patience mélangeait tout. Et elle m'enguirlandait quand je lui répétais ce qu'elle venait de dire. Soi-disant, je me moquais d'elle, et je devais bien savoir qu'on ne se sert pas d'herbe à chat pour les cataplasmes. J'ai été bien soulagé quand elle a dit que je lui avais donné une telle migraine qu'on allait s'en tenir là. Et lorsque j'ai proposé de lui cueillir des boutons de main de vierge pour calmer la douleur, elle s'est redressée d'un coup. « Là, je savais bien que tu te moquais de moi !» Je ne sais pas quoi faire pour lui plaire, Burick.
« Quel intérêt ? » grogna-t-il, et j'abandonnai le sujet.
Ce soir-là, Brodette se présenta chez moi. Elle frappa à la porte, entra et plissa le nez. « Vous feriez bien de répandre des herbes par terre si vous comptez garder ce chien ici, et de vous servir d'eau vinaigrée quand vous nettoyez ses saletés. On se croirait dans une écurie. »«
Sûrement, » répondis-je.
Je la regardai d'un air interrogateur. « Je vous ai apporté ceci. J'ai eu l'impression que c'est ce que vous préfériez. » Et elle me tendit le biniou de mer. J'examinai les tubes larges et courts maintenus ensemble par des lanières de cuir. En effet, des 3 instruments que j'avais essayés, c'était celui avec lequel j'étais le plus à l'aise. La harpe possédait beaucoup trop de cordes, et j'avais trouvé strident le son de la flûte, même entre les lèvres de Patience.
« C'est Dame Patience qui me l'envoie ?»
demandai-je perplexe.
« Non, elle ignore que je l'ai pris. Elle croira l'avoir égaré dans sa pagaille, comme d'habitude. Mais pourquoi me la porter ?»«
Pour que vous vous y exerciez. Quand vous aurez les doigts un peu plus déliés, rapportez-le et montrez à Dame Patience ce que vous savez faire. »
Pourquoi donc ?
Brodette soupira. « Parce que cela apaisera sa conscience, et moi, cela me facilitera la vie. C'est un calvaire d'être servante auprès de quelqu'un d'aussi mélancolique que Dame Patience. Elle voudrait tant que vous soyez douée pour quelque chose. Alors elle vous teste dans tous les domaines en espérant vous voir manifester un talent subi afin de pouvoir annoncer triomphalement à tout le monde. Là, je vous avais bien dit qu'il avait un don.
Mais moi, j'ai eu des fils. » Et je sais que les adolescents, ça ne marche pas comme ça. On dirait qu'ils n'apprennent rien, qu'ils ne mûrissent pas, qu'ils n'ont pas de manières, mais il suffit de tourner le dos et les voilà qui grandissent, qui prennent du plomb dans la cervelle et qui charment tout le monde, sauf leur mère.
J'étais un peu perdu. Vous voulez que j'apprenne à jouer de ce truc pour rendre le sourire à Patience?
Pour qu'elle ait l'impression de vous avoir donné quelque chose.
Elle m'a déjà donné Martel? Elle ne peut pas me faire de plus beau cadeau. Elle parut désarçonnée par mon abrupte sincérité. J'étais dans le même cas.
Ah bon? Eh bien, vous pourriez le lui dire. Mais apprenez peut-être aussi à jouer du biniou, à réciter une ballade ou à chanter une prière traditionnelle. Elle comprendra peut-être mieux.
Après son départ, je m'assis pour réfléchir, balançant entre la colère et le désenchantement. Patience souhaitait me voir réussir dans la vie et se croyait obligée de me découvrir un talent, comme si, avant elle, je n'avais jamais rien fait ni accompli. Cependant, en songeant à mon passé et à ce qu'elle savait de moi, je m'aperçus qu'elle devait avoir de moi une image assez plate. Je savais lire, écrire et m'occuper d'un cheval ou d'un chien, pas davantage. Certes, je savais aussi concocter des poisons, préparer des potions soporifiques, dérober des objets, mentir et faire des tours de passe-passe, mais rien de tout cela ne lui aurait plu, quand bien même on eût-elle eu vent. Alors, avais-je des talents cachés, autres que ceux d'espion et d'assassin? Le lendemain, je me levai tôt et allai trouver Jérepu, qui se montra ravi quand je lui demandai à lui emprunter des pinceaux et des couleurs. Le papier qu'il me fournit était meilleur que celui des feuilles d'exercice, et il me fit promettre de lui soumettre le résultat de mon travail. Tout en remontant chez moi, j'essayais de m'imaginer faisant mon apprentissage auprès de lui. Ce ne pouvait pas être plus dur que ce qu'on m'imposait depuis quelques jours. Mais la tâche que je m'étais fixée s'avéra plus compliquée que toute celle de Patience. Je regardais Martel endormi sur son coussin. La courbe de son dos ne devait pas être différente de celle d'une rune. Les ombres de ses oreilles, pas très éloignées de celles des illustrations de plantes que je copiais avec tant d'application sous la férule de Jérepu. Et pourtant, si, et j'y gaspillais des feuilles et des feuilles avant de me rendre soudain compte que c'était les ombres autour du chiot qui créaient les courbes de son dos et la ligne de sa croupe. Je devais soustraire, non ajouter, et peindre ce que voyait mon œil plutôt que mon esprit. Il était tard lorsque je rinçais mes pinceaux avant de les ranger. J'avais deux dessins dont j'étais assez content, et un troisième qui me plaisait vraiment, bien que vague et brouillé. On aurait dit un chiot vu en rêve plutôt qu'en réalité. Il représentait davantage ce que je percevais par le vif que par les yeux. Mais devant la porte de Patience, je regardais les feuilles que je tenais à la main, et je me vis soudain comme un petit enfant qui tend à sa maman des pissenlits fanés et tout froissés. Était-ce là un passe-temps pour un grand garçon? Si j'étais vraiment l'apprenti de Jérepu, ce genre d'exercice serait tout à fait approprié. Car un bon scribe doit savoir aussi bien tirer un trait rectiligne qu'illustrer et enluminer. Mais la porte s'ouvrit avant même que je ne frappe, et je restai pétrifié sur place, mes dessins encore humides entre mes mains tachées de peinture. J'obéis sans un mot lorsque Patience, d'un ton irrité, m'ordonna d'entrer en ajoutant que j'étais déjà bien assez en retard. Je m'assis au bord d'une chaise occupée par un manteau en bouchon et un ouvrage de broderie à demi achevé. Je posais mes œuvres à côté de moi sur un tas de tablettes.
« Je te crois capable d'apprendre à réciter de la poésie si tu y mets du tien, » dit-elle avec une certaine sécheresse dans la voix. « Par suite, tu dois pouvoir apprendre à en composer avec de la bonne volonté. Le rythme et la métrique ne sont jamais que... »«
C'est ton petit chien ?»«
C'était le but recherché, » marmonnai-je, embarrassé comme je ne l'avais jamais été de ma vie. Elle prit les feuilles et les examina l'une après l'autre, de près, puis à bout de bras. Elle s'arrêta longuement sur le dessin le plus flou. « Qui t'a donné ces peintures ?» demanda-t-elle enfin.
« Note que ça n'excuse pas ton retard, mais j'aurai l'usage d'un artiste capable de reproduire ce que l'œil voit, avec des couleurs aussi naturelles.
C'est l'ennui de tous les herbiers que je possède. Toutes les plantes sont du même vert, qu'elles deviennent grises ou rosées en grandissant. Inutile d'espérer apprendre quoi que ce soit avec ce genre de tablette.
J'ai l'impression qu'il les a peints lui-même, madame, la coupa Brodette d'une voix douce.
Et ce papier, il est bien supérieur à celui que je dois...
Patience s'interrompit soudain.
Toi, Thomas ?
C'était la première fois, je crois, qu'elle pensait à employer le nom qu'elle m'avait octroyé.
Tu peins comme ça ?
Devant son air incrédule, je parvins à hocher légèrement la tête. Elle leva de nouveau les dessins. Ton père était incapable de tracer une courbe, sauf sur une carte.
Ta mère dessinait-elle ?
Je n'ai aucun souvenir d'elle. J'avais répondu d'un ton revêche.
Personne à ma connaissance n'avait jamais eu l'audace de me poser cette question.
Quoi ?
Aucun ?
Mais tu avais 6 ans. Tu dois bien te rappeler quelque chose. La couleur de ses cheveux, sa voix, comment elle t'appelait.
Il me sembla sentir dans sa voix un désir douloureux, une curiosité qu'elle n'osait pas tout à fait satisfaire. L'espace d'un instant, la mémoire me revint presque. Un parfum de menthe, ou peut-être de... Puis tout disparut.
Rien, madame. Si elle avait voulu que je me souvienne d'elle, elle m'aurait gardé auprès d'elle, je suppose.
Je verrouillais mon cœur. On ne pouvait pas exiger de moi un devoir de mémoire envers une mère qui m'avait abandonné sans jamais chercher à me revoir.
Bien. À cet instant, Patience se rendit compte, je crois, qu'elle avait mené la conversation vers un terrain difficile. Par la fenêtre, elle regarda le ciel gris.
« Tu as eu un bon professeur de dessin, » dit-elle tout à coup, d'un ton trop enjoué.
« C'est Gérepu. »
Comme elle ne réagissait pas, j'ajoutais. « Le scribe de la cour, vous savez. Il voudrait me prendre comme apprenti. Mes lettres le satisfont et en ce moment, il me fait travailler à copier ses images. Enfin, quand j'en ai le temps. Je suis souvent occupé et lui, il est souvent parti chercher des roseaux à papier.
« Des roseaux à papier ?»
répéta-t-elle d'un air distrait. Il a une petite provision de papier. Il en possédait plusieurs mesures, mais peu à peu, la réserve baisse. Il l'avait acheté à un marchand qui l'avait obtenu d'un autre, qui lui-même la tenait d'un troisième, si bien qu'il ignore d'où vient le papier. Mais à ce qu'il dit, c'était du roseau martelé. Ça donne un papier de bien meilleure qualité que celui que nous fabriquons, fin, souple, qui s'effrite moins vite avec le temps et qui prend bien l'encre, mais sans l'absorber, au risque de brouiller les contours des runes. D'après Gérepu, s'il parvenait à trouver la formule, ça changerait pas mal de choses. Avec un bon papier bien solide, n'importe qui pourrait avoir chez soi une copie des tablettes du savoir traditionnel conservé à la forteresse. Et avec un papier bon marché, on pourrait apprendre à lire et à écrire à davantage d'enfants, selon lui en tout cas. Je ne comprends pas pourquoi il est si... J'ignorais que quelqu'un d'ici partageait mon intérêt. Le visage de Dame Patience s'illumina soudain. « A-t-il essayé de faire du papier à partir de racines de lys écrasées ? J'ai eu quelques réussites par ce moyen, et aussi avec des brins d'écorce de quinoué tissés, puis pressés, encore humides. Ça donne un matériau résistant et souple, quoique la surface laisse à désirer. En revanche, ce papier-ci... »
Son regard retomba sur les feuilles qu'elle tenait, et elle se tut. Puis d'un ton hésitant, « Tu aimes donc ce chiot à ce point ?»
« Oui, » répondis-je simplement, et nos yeux se croisèrent soudain. Elle me dévisagea avec la même expression distraite qu'elle avait souvent en regardant par la fenêtre. Tout à coup, des larmes perlèrent à ses yeux.
« Parfois, tu lui ressembles tant que... »
Sa voix s'étrangla.
« Tu aurais dû être de moi, ce n'est pas juste, tu aurais dû être de moi !»
Elle jeta ces mots avec une telle violence que je crus qu'elle allait me frapper. Mais elle bondit vers moi et me serra dans ses bras, non sans piétiner sa chienne au passage, ni renverser un vase contenant un bouquet de feuilles. L'animal se releva avec un glapissement,
Le vase se brisa en répandant de l'eau et des tessons dans toutes les directions, tandis que le front de madame prenait durement contact avec mon menton, si bien que, pendant quelques instants, je n'y vis plus que des étincelles. Avant que j'aie le temps de réagir, elle me lâcha et s'enfuit dans sa chambre en poussant un cri qui évoquait celui d'un chat ébouillanté. Elle claqua la porte derrière elle. De toute la scène, Brodette n'avait pas cessé son ouvrage.
« Ça lui prend de temps en temps, » fit-elle d'un ton calme, en m'indiquant la porte d'un signe de la tête.
« Revenez demain, » me rappela-t-elle, et elle ajouta, « Vous savez, dame patience, c'est prise d'une grande affection pour vous. »